Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, reportage à Alep en Syrie où les soldats d'Ayat Tahrir el-Sham mènent des opérations antiterroristes après deux attaques déjouées ces derniers jours. On parlera terrorisme aussi, mais en Somalie où la branche locale du groupe État islamique prend de plus en plus d'importance dans son organisation grâce notamment à celui qui la dirige. Un portrait à suivre. On sera également en France où le Premier ministre François Bayrou reçoit les syndicats agricoles ce lundi. Et puis 400 millions de personnes attendues lors du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela, qui a débuté ce matin dans le nord de l'Inde, un immense défi logistique pour les autorités. Faut-il ou non lever les sanctions économiques qui visent la Syrie? La question sera débattue à la fin du mois par les ministres européens des Affaires étrangères. Le calendrier a été dévoilé hier par la chef de la diplomatie de l'UE depuis Riyad, où se tenait une réunion consacrée justement à la Syrie. En tout cas, l'Arabie Saoudite, elle, plaide pour une levée de ces sanctions afin, dit-elle, de permettre au pays de se développer et de se reconstruire. Car c'est une Syrie à genoux qui tente de renaître après quasiment 15 ans de guerre civile, surtout que l'insécurité n'est visiblement pas de l'histoire ancienne. Les nouvelles autorités d'Ayat Tahrir al-Sham annoncent avoir déjoué deux attentats en moins de 48 heures. L'un d'eux visait Alep, depuis les zones de contrôle tenues par les Kurdes des forces démocratiques syriennes, qui revendiquent une autonomie dans le nord-est du pays. Depuis cette tentative, les services de renseignement et de sécurité générale ont renforcé leur dispositif. Reportage à Alep de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Une butte de terre barre la route qui mène à la zone administrée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes. À l'entrée, des soldats d'Ayat Tahrir al-Sham arrêtent chaque voiture, fouillent les coffres, vérifient les pièces d'identité. Il y a deux jours, une voiture piégée remplie d'explosifs a été trouvée là, en direction d'Alep, raconte Walid à l'entrée du checkpoint.
La voiture venait de la région de Deir Hafer, dans la zone kurde. Lorsqu'elle est arrivée sur ce checkpoint, les policiers ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont commencé à l'inspecter et en ouvrant les portes, ils ont vu qu'elles avaient été trafiquées. La voiture en fait était remplie d'explosifs cachés à l'intérieur des portières et dans le coffre.
Le long de cette route qui mène de la zone kurde aux portes d'Alep-Est, quatre checkpoints ont depuis été montés. Du matin au soir, des policiers du service de sécurité en charge du contre-terrorisme font des rondes, car depuis la chute du régime, les tentatives d'attentats venues de la zone kurde sont fréquentes, explique Abou Hassan à la tête de 500 policiers.
Nous faisions déjà des fouilles auparavant, mais nous avons augmenté les restrictions depuis cette affaire. Il est important que les gens comprennent que ce genre d'opération terroriste est grave, que cela n'apportera jamais la paix dans notre pays, surtout après que Dieu nous a permis de libérer la Syrie et d'éliminer la milice d'Al-Assad.
Il y a deux jours, les autorités syriennes ont également annoncé avoir déjoué une tentative d'attentat de la part des membres de l'État islamique. Un mausolée chiite près de Damas était visé. Manon Chaplin à Alep, RFI.
Le groupe État islamique dont la branche somalienne s'étend, c'était notre dossier du jour dans le journal de 7h en temps universel. On vous y expliquait qu'elle est en train, cette branche, de devenir une plaque tournante logistique et financière de l'EI, générant selon l'ONU plus de 4 millions de dollars par mois. Et à la tête de cette branche somalienne, Abdul Kadim Moumine, qui est son fondateur et son émir aussi, et dont l'importance ne cesse de croître au sein de l'organisation État islamique. Il pourrait même être devenu le nouveau calife, selon certains experts. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs mois maintenant. En mai dernier d'ailleurs, deux frappes de drones ont cherché à le neutraliser, a priori sans succès. Son portrait avec Paul Lorgerie.
L'une de ses dernières apparitions, en 2019, le montre dans un paysage montagneux, Kalachnikov à l'épaule et barbe rousse saillante. Abdul Kadir Moumine, né entre 1951 et 1953 en Somalie, s'envole au début des années 1990 en Suède, où il demeure une dizaine d'années. Il y aurait fait ses premiers pas dans le djihad islamique avant d'embarquer pour le Royaume-Uni autour de 2005, où il obtient la nationalité britannique. Il s'y impose vite comme une figure idéologique, un point focal pour le recrutement de futurs combattants. Sous le feu des projecteurs de la sécurité intérieure britannique, le MI5, il s'enfuit en 2010 vers la Somalie pour rejoindre les rangs d'Al-Shabaab, avant de leur tourner le dos 5 ans plus tard et de prêter allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi en octobre 2015. La cellule de l'État islamique en Somalie est née. Bien qu'à la tête d'une centaine d'hommes, à peine, le directeur du renseignement américain ne tarde pas à rédiger une fiche à son sujet, le qualifiant de terroriste mondial spécialement désigné. Des sanctions sont prises à son encontre, qui ne l'ont pour autant pas empêché de devenir plus tard l'émir du bureau Al-Qarar, aujourd'hui considéré comme la plaque tournante des échanges de fonds de l'organisation de l'État islamique.
Des précisions de Paul Lorgerie. 300 soldats nord-coréens tués en Ukraine. C'est un député sud-coréen qui l'affirme, citant un bilan du service de renseignement de Séoul. Il affirme également que ces soldats seraient encouragés à se suicider s'ils sont menacés d'être capturés. La Russie accuse, elle, ce matin, l'Ukraine d'avoir lancé des drones sur une station de distribution du gazoduc Turk Stream, le seul désormais à acheminer du gaz russe vers l'Europe. Aux États-Unis, les services de médecine du comté de Los Angeles parlent de 24 morts dans les incendies qui continuent de ravager la Cité des Anges. Les vents qui attisent les flammes mais qui s'étaient calmés ces derniers jours devraient à nouveau souffler fort à partir de demain. Alors les pompiers préviennent, pas de retour chez eux pour les habitants évacués avant au moins jeudi. Déjà plus de 12 000 structures sont parties en fumée. Au milieu de ces zones dévastées, des pillages qui se multiplient. Les autorités américaines ont annoncé hier avoir interpellé un potentiel voleur déguisé en pompier. Il tentait alors de s'introduire dans une maison d'une zone dévastée dans la cité balnéaire de Malibu. Mayotte, de son côté, toujours en alerte rouge. Les habitants restent confinés après le passage de la tempête tropicale Dikeledi, qui a provoqué des inondations dans l'archipel français de l'océan Indien, déjà frappé par le cyclone Chido le mois dernier. Alors la tempête s'est éloignée, mais de nouvelles pluies intenses pourraient tomber dans les prochaines heures. Et alors que l'Assemblée nationale française entame justement aujourd'hui l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, le Premier ministre François Bayrou peaufine, lui, son discours de politique générale prévu demain. Mais il ne chôme pas pour autant aujourd'hui puisqu'il reçoit les syndicats agricoles, un moment très attendu par le secteur mobilisé depuis plus d'un an, notamment contre un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, Nathanaël Vitran.
Alors que la France exporte une grande partie de sa production, les agriculteurs craignent par exemple la concurrence du sucre et du bœuf brésilien. Le Premier ministre devrait leur redire l'opposition de son gouvernement à cet accord, alors que le président Macron a estimé la semaine dernière que la messe n'était pas dite, espérant encore rallier une minorité de blocage à Bruxelles. Les agriculteurs français attendent aussi la mise en place des mesures de simplification promises à l'automne par Michel Barnier et retardées par la crise politique. Pour les syndicats, l'enjeu est aussi électoral et financier. Les élections pour les chambres agricoles commencent ce mercredi. Du résultat dépendra la répartition des subventions publiques accordées à chacun. En 2019, la FNSEA, ultra majoritaire depuis toujours, et les jeunes agriculteurs avaient récolté 55% des suffrages. La Confédération paysanne, classée à gauche, et la Coordination rurale s'étaient partagé le reste des voix. La Coordination rurale, dont plusieurs cadres se sont rapprochés de l'extrême droite, espère cette fois capitaliser sur une mobilisation musclée pour contester l'hégémonie de la FNSEA.
Nathanaël Vitran. Ce devrait être le pèlerinage de tous les records. Il a commencé ce matin en Inde. Le Kumbh Mela, ça doit durer un mois, sur le Gange, le fleuve sacré des hindous dans l'état de l'Uttar Pradesh. Et c'est un défi logistique immense alors que le gouvernement attend jusqu'à 400 millions de visiteurs. Correspondance de Combastin.
Il y a une Kumbh Mela tous les 3 ans dans différentes villes, mais celle qui s'ouvre aujourd'hui, près de la ville de Prayagraj, est la plus importante de toutes et elle n'a lieu que tous les 12 ans, à une date décidée par l'astrologie. C'est la première de ce type pour le Premier ministre Narendra Modi, élu en 2014. La Kumbh Mela est liée à des mythologies hindoues millénaires et son origine est difficile à tracer. Pour les croyants, prendre un bain dans le Gange à ce moment-là équivaut en tout cas à se laver de ses péchés et à se libérer du cycle des renaissances. Le pèlerinage attire nombre d'Indiens, mais aussi des convertis à la religion hindoue, comme cet Américain.
L'importance de la Kumbh Mela pour moi, l'unité internationale, globale, la pratique spirituelle afin de retrouver la puissance, la vérité en nous. L'énergie qui nous sert et qui sert la mère terre, qui sert l'humanité.
Sur les rives du Gange, on s'y prépare depuis des mois, alors que le climat s'annonce froid, pluvieux et avec du brouillard. On compte 150 000 tentes et presque autant de toilettes réparties sur les 4 000 hectares du site. La plus grande crainte pour les autorités étant les bousculades meurtrières qui accompagnent souvent la ferveur des grands rassemblements hindous. Combastin, Bangalore, RFI.
Retard au décollage pour New Glenn. La fusée de la société Blue Origin, propriété de Jeff Bezos, devait décoller cette nuit depuis la Floride. Vol inaugural reporté pour cause de problèmes techniques non spécifiés, tout comme d'ailleurs la date du report. Cette fusée est en tout cas censée faire concurrence en orbite à SpaceX du milliardaire Elon Musk. Et puis on a appris la mort du photographe italien Olivier Olivier Rotoscani. On lui doit plusieurs campagnes de publicité provocatrices de la marque de vêtements Benetton. Benetton mettant notamment en scène une femme anorexique, une autre à la peau noire donnant le sein à un enfant blanc. Olivier Toscani avait 82 ans. Vous retrouvez Caroline Paré sur RFI.
Merci Gaëtan Plenet.